Radio Okapi.
Le journal, présenté par Belinda Bossouma.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi dénonce fermement le soutien du Rwanda au M23 actif dans l'est de la RDC et appelle la communauté internationale à des sanctions concrètes et immédiates contre le Rwanda. Le chef de l'État congolais s'est ainsi exprimé samedi devant le corps diplomatique accrédité à Kinshasa. 4 personnes présentées comme des combattants du M23 capturés dans le Rutshuru au Nord Kivu sont arrivées hier à Bunia. Ces jeunes originaires de l'Ituri disent avoir été enrôlés par Thomas Lubanga, président du parti politique UPC, pour rejoindre la rébellion du M23. Et puis, l'RDC reste inactive alors que ses voisins affichent des ambitions démesurées dans l'exploitation des nappes pétrolières partagées avec l'Ouganda et le Rwanda. L'alerte est de Moïse Alieguera, chargé d'études au pôle juridique du ministère congolais de l'Environnement. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé samedi 18 janvier au corps diplomatique accrédité à Kinshasa dans le cadre des traditionnels échanges de vœux des débuts de l'année. Dans son discours, le chef de l'État congolais dénonce fermement le soutien de l'armée rwandaise au groupe rebelle M23 actif dans l'est du pays et appelle la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à cette situation. Reportage de Poly Muzalia, rendu par Blaise Ndongala Maenda.
Félix Tshisekedi rappelle que le groupe rebelle M23 continue de semer la terreur dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Il note que le soutien direct du Rwanda au M23, confirmé dans un rapport des Nations Unies publié décembre dernier, constitue une violation flagrante de la souveraineté de la RDC. Ce rapport rappelle les numéros 1 congolais établis preuve à l'appui, la présence des milliers de soldats rwandais sur les territoires congolais, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays. Le chef de l'État exclut cependant donc toute possibilité de négociation avec les M23 et affirme que dialoguer avec ces groupes rebelles reviendrait à légitimer ces actions illégales et à saper les principes fondamentaux de l'État congolais. Il regrette également l'annulation du sommet tripartite de Luanda du 15 décembre 2024 à raison, selon lui, de nouvelles exigences posées par la délégation rwandaise, notamment la demande d'un dialogue direct entre la RDC et les M23. Félix Tshisekedi salue tout de même les condamnations émises par certains pays à la contre du Rwanda, mais estime que ses prises de position restent insuffisantes face à la gravité de la situation.
Entre-temps, sur le terrain des affrontements, les combats opposant l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 au nord Kivu s'étendent vers Calais et au sud Kivu voisin, rapportent plusieurs sources, ce qui a provoqué ce week-end un mouvement des populations autour de l'agglomération de Lumbishi, chefferie de Bouravu, territoire de Calais. Selon les mêmes sources, dimanche dans la matinée, le mouvement des rebelles se serait observé sur les axes Changungu, Ziralo et Lumbishi, Ruzirantaka, ce qui accroît la panique dans la zone, forçant plusieurs habitants des villages Kachovu, Luzirantaka, Nganjo, Lubono et Lumbishi à fuir vers Tushunguti dans le groupement de Ziralo et les autres vers Numbi. Par ailleurs, plusieurs acteurs et notables de Rutshuru disent constater que plusieurs localités du territoire de Rutshuru vidées des rebelles M23 sont à présent réoccupées par les combattants Wazalendo alliés au FARDC. Parlons du M23. En Ituri, 4 personnes présentées comme des combattants du M23, capturées au front dans le retour au nord Kivu, sont arrivées hier à Bunia, en provenance de Goma. Devant la presse, ces jeunes originaires de l'Ituri ont déclaré avoir été enrôlés par ruse par Thomas Lubanga, président du parti politique UPC, Union des Patriotes Congolais, pour rejoindre la rébellion du M23 en vue de déstabiliser la RDC. Il y a quelques jours, l'UPC émettait des doutes quant à une alliance avec les rebelles du M23 après la publication du dernier rapport des experts de l'ONU sur la RDC. Plus de détails avec Martial Kizabiamungu.
À l'heure descente de l'avion qui les a transportés de Goma à Bunia, les 4 présumés combattants du M23 originaires de l'Ituri ont tous déclaré avoir été recrutés pour suivre la formation en informatique et en anglais en Ouganda, mais se sont retrouvés dans un centre de formation à Changzhou dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Selon les porte-parole de l'armée à l'Ituri, ces transferts a été possible grâce à la collaboration entre les gouverneurs du Nord Kivu et celui de l'Ituri, avec comme objectif de démanteler tous les réseaux des recruteurs de jeunes ituriens pour les comptes du M23 et de ses complices à l'Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo.
Ils sont arrivés pour approfondir les enquêtes afin de démanteler tout le réseau de recruteurs que nous avons toujours dénoncé. On cite Thomas Lubanga, Docteur Tungulu, David Unierto.
Il y a une semaine, réagissant au rapport des experts des Nations Unies qui citaient nommément Thomas Lubanga pour ses liens avérés avec le M23, les partis politiques Union des Patriotes Congolais IPC avaient émis des doutes sur ce qu'ils qualifiaient d'allégations compromettant leur leader avec la rébellion des Corneille Nangaa et celle du M23. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Sud Kivu, une force spéciale de patrouille de proximité est mise en place à Bouniakiri et ses environs par une organisation mixte FARDC, Agence nationale des renseignements ANR et Police nationale congolaise PNC, avec comme objectif mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la province, sécuriser la population et aussi des milliers de déplacés en provenance du Nord Kivu installés au Sud Kivu voisin. Rachel Kiesse nous en dit plus.
Cela fait suite à la résolution convenue lundi 13 janvier à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité élargie tenue à Bouniakiri. Cette force spéciale de patrouille de proximité est déjà installée dans le groupement de Bitalé, chefferie de Boulouo. Cela pour le suivi sécuritaire de points chauds depuis Bitalé jusqu'à Chivanga près du groupement de Miti. Cette décision est également une sorte de réponse aux multiples cas de braquage enregistrés sur la route nationale numéro 3 dans le parc national de Kahuzi-Biega, avec ce Chivanga Bouniakiri, mais également pour la sécurisation de plus de 5000 déplacés en provenance du territoire de Massissi, Rutshuru et Walikale. Ceux-ci installés dans le groupement de Ziralo, chefferie de Buhavu, territoire de Kalehe. Les uns sont dans des écoles, églises et d'autres dans des familles d'accueil. La société civile Force Vive de Bouniakiri signale que ces déplacés sont en difficulté et qu'il faille les assister de toute manière que ce soit, mais aussi les sécuriser. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Parlons du projet du président de la République d'engager des réflexions pour une réforme de la Constitution. Hier dimanche, le parti politique MSL, Mouvement Social Lumbiste de Feu Pierre Lumbi, s'est prononcé devant les médias, appelant le peuple congolais à ne pas se laisser instrumentaliser ou manipuler pour une idée qui doit faire sujet d'un débat démocratique et républicain, partant du principe selon lequel toute œuvre humaine est perfectible. Le vice-président du MSL souligne que la Constitution en elle-même prévoit des mécanismes de sa révision. En outre, le MSL ajoute qu'une réforme s'impose du fait que la légitimité de certains animateurs des institutions est devenue sujette à caution. On écoute à ce sujet Pichu Yoma Bolenge, vice-président du mouvement social lumbiste. Il est au micro de Billy Van Lutumba.
Le mouvement social lumbiste soutient qu'il est prêt à engager un débat sur toute disposition constitutionnelle sujette à révision. Le cas des gouverneurs des provinces qui tirent leur légitimité d'une dizaine ou vingtaine de députés provinciaux qui les ont élus et les tiennent en laisse. Il en est de même de sénateurs qui doivent leur légitimité aux voix de 3 voire 7 députés provinciaux et sur cette base prétendent représenter la province. Aussi, est-il fondé d'exiger qu'une disposition pertinente de la Constitution actuelle révisée sera prévue pour décourager tout individu ou groupe d'individus qui serait tenté de recourir aux armes pour accéder au pouvoir ou à un poste de responsabilité dans les institutions du pays? Le mouvement social lumbiste tient à faire remarquer que la question autour du nombre de mandats du président de la République ne devrait pas focaliser l'attention de tous les Congolais qui se veulent républicains et démocrates. C'est une question d'hygiène démocratique.
Autre nouvelle, l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ fustige le fait que le gouvernement de la RDC a privilégié la construction du pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville au détriment du projet d'érection du port en eau profonde de Banana. Ceci est contenu dans un communiqué de presse rendu public le 16 janvier. Pour ACAJ, l'option levée par le gouvernement souminois est de nature à mettre en mal la souveraineté économique et maritime de la RDC qui va grandement dépendre des ports de Pointe-Noire et de Lobito pour son commerce extérieur. Jude Mister Bilanda.
ACAJ constate que le gouvernement de la RDC s'engage dans ses projets alors que celui des constructions d'un port en eau profonde à Banana au Congo central et ses annexes, à savoir un chemin de fer et une autoroute devant relier l'embouchure du fleuve Congo à l'arrière-pays portuaire, peine à être achevé dans le délai initialement prévu. Cette ONG relève que sur le plan géostratégique et outre l'accord signé récemment avec l'Angola et la Zambie portant sur la création du corridor des Lobito, la RDC ne peut se permettre une posture suicidaire consistant à retarder et ou abandonner les projets vitaux du port en eau profonde de Banana pour ainsi dépendre des ports maritimes étrangers pour sa desserte tant en import qu'en export, se privant de ses faits de tout accès direct et souverain à l'océan Atlantique. En conséquence, ACAJ recommande à l'Assemblée nationale et au Sénat d'user de leur pouvoir constitutionnel pour s'opposer à la participation de la RDC à toute discussion ayant pour objectif la construction du pont route rail entre Brazzaville et Kinshasa, à défaut de l'achèvement et de la mise en service effectif de ports en eau profonde de Banana.
Et puis, la première ministre Judith Suminwa instruit le ministre d'État en charge du travail de rapporter son arrêté du 31 décembre 2024 sur l'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en RDC de 7 075 francs à 14 500 francs congolais, soit 5 dollars américains. Dans une note de service datant du 10 janvier, la chef du gouvernement évoque le non-respect de la procédure requise en la matière, le vice de forme et l'incompétence matérielle de l'autorité. En réaction, la Confédération démocratique du travail, CDT, a récusé samedi la démarche de la première ministre. Pour Willy Moutia, secrétaire confédéral en charge des questions administratives du CDT, cette attitude dénote le manque de cohérence au sein du gouvernement souminois et redoute que cette décision soit au centre des divergences entre employeurs et travailleurs à travers le pays. Willy Moutia, joint par Blaise Ndongala Mayanda.
Et c'est regrettable. Je pense que tous les travailleurs devront regretter aussi.
Le ministre du Travail, il a même pris le président de la République à témoin et c'est les cadeaux qu'on donne aux travailleurs pour cette année 2025. Mais ce cadeau-là a été retiré par la première ministre. Donc, on doit tout faire pour relancer un nouveau cadeau. Et ce nouveau cadeau ne peut être que la révision du SMIG rapidement et que cela passe même à plus de 20 dollars par jour.
Vous pensez que cette décision de la Première ministre aura une incidence sur le travailleur et fonctionnaire de l'État?
Oui, c'est un conflit qu'il a lancé entre les travailleurs et les employeurs. Les travailleurs vont devoir revendiquer les 5 dollars réajustés. Les employeurs vont devoir s'appuyer sur l'arrêté du Premier ministre. C'est un conflit sur terrain. Ils doivent s'atteler rapidement pour réunir les parties prenantes pour qu'on fixe maintenant les SMIC. Il n'y a plus à réajuster, c'est à fixer.
Kassai Oriental, de source sur place, signale la stabilité du prix de maïs sur le marché dans la ville de Mbujimayi, une situation qui réjouit les femmes ménagères de cette ville. Détail avec Esther Ndalafina.
Le maïs, aliment de base de plusieurs familles au Kassai Oriental, est disponible sur le marché de Mbujimayi. Des tonnes de cargaisons sont entreposées dans les dépôts du marché. Contente de cette situation, Espérance Mwapocha Mwenyi affirme que ce sont les résultats des activités agricoles.
Quand les gens pensent tout le temps à cultiver, et à ce moment-là, nous avons quand même l'abondance de maïs sur le marché. Cette fois-ci, le maïs sont maintenant en baisse. Aujourd'hui, nous trouvons un méga de maïs à 3500, à 3700, à 3800. L'inkoulou-koulou, c'est à 5500, les autres à 5000 francs.
L'abondance de maïs sur le marché a même entraîné la baisse de prix d'un sac de 50 kg de maïs produit par le service national. Explication de Monique Ngalula.
Tout ce temps, on payait 83 500. Mais actuellement, je suis allée sur le marché, on a acheté à 73 500. Le prix a baissé sensiblement. Nous sommes très vraiment ravis de ça. Quand quelqu'un n'a pas mangé, il ne peut pas travailler.
Signalons que l'abondance de maïs pendant cette période permet de réduire les cas de malnutrition sur la ville, affirment les nutritionnistes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Nigeria. L'explosion d'un camion-citerne dans l'état de Niger, près de Souleja, a tué au moins 70 personnes. Ce drame est survenu tôt le matin hier, alors que des individus tentaient de transférer du carburant d'un camion à un autre à l'aide d'un générateur. L'explosion a pris par surprise ceux impliqués dans le transfert et des passants. Les autorités ont lancé des opérations de secours pour retrouver d'éventuelles victimes.
L'invité.
La RDC doit rattraper son retard dans l'exploitation des nappes pétrolières partagées avec l'Ouganda et le Rwanda. L'appel est de Moïse Aliéguera, chargé d'études au pôle juridique du ministère congolais de l'Environnement. Pour lui, Kinshasa reste inactif alors que ses voisins affichent des ambitions démesurées dans l'exploitation de ses ressources communes. Moïse Aliéguera est avec Ronéline Tibonera.
Maître Moïse Aliéguera Nyakulinda, bonjour.
Bonjour, monsieur Ronéline.
Vous êtes motivé aujourd'hui d'interpeller le gouvernement congolais autour de l'exploitation du pétrole dans les lacs Albert par l'Ouganda. Et d'autre part, vous êtes également intéressé à la question de la découverte de 13 blocs pétroliers dans le lac Kivu par le Rwanda. Qu'est-ce qui servirait de motivation de votre côté?
D'abord, ces nappes pétrolières sont partagées entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda dans les lacs Albert. Et dans les lacs Kivu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et donc, les nappes pétrolières, une fois que ces deux pays vont installer leurs pompes dans le fond de ces deux lacs, le pétrole qui s'y trouve passera par la capillarité. Et lorsque la République démocratique du Congo voudra exploiter ces nappes pétrolières, nous risquerons de ne rien trouver dans les passants de ces deux lacs, notamment le lac Albert et le lac Kivu. Voilà la motivation principale qui me pousse aujourd'hui d'interpeller les gouvernements congolais.
Mais est-ce que c'est un problème si les Rwanda et l'Ouganda peuvent mettre de moyens pour exploiter leur pétrole dans leurs différentes entités?
Bon, c'est vrai que ce sont des États souverains, mais notons que ces nappes pétrolières sont partagées et il n'y a pas une limite dans les sous-sols. Et lorsqu'ils vont installer leur pompe, la pression de leur pompe va tirer. Auparavant, ces nappes pétrolières à une piscine. Lorsqu'on veut vider les eaux d'une piscine, il suffit que le premier dispose de tout le matériel pour le vider et tous ces eaux seront vidées. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité du gouvernement de veiller surtout aux intérêts économiques du pays.
Récemment, plusieurs organisations de la société civile se sont levées pour fustiger tout projet allant dans le sens de l'exploitation du pétrole dans cette zone au motif de protéger l'environnement. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part votre demande ou votre appel ne soit pas en contradiction avec les efforts déployés par les acteurs qui défendent des questions environnementales?
La société civile et les chefs coutumiers à ces stades doivent privilégier les intérêts de la République. Parce que dans ces deux pays, il y a aussi la société civile, il y a les chefs coutumiers. Pourquoi ils ont accepté à leur pays d'exploiter les nappes pétrolières de ces deux-là? Parce que justement, ils ont privilégié les intérêts économiques de leur pays. Nous aussi, nous devons nous comporter à priorité de notre pays. Parce que si nous n'acceptons pas aujourd'hui au gouvernement congolais d'exploiter ces nappes pétrolières, alors ces deux pays vont prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsque nous allons maintenant nous engager à exploiter, nous n'y trouverons absolument rien. La société civile, les chefs coutumiers doivent se mettre d'accord avec les gouvernements sur les différents projets d'exploitation de ces nappes pétrolières.
Et quels sont les dividendes que la République démocratique du Congo peut tirer de l'exploitation de ces nappes, tenant compte également de cette question environnementale qui est à la une?
Bon, nous avons d'abord la croissance économique. Vous savez, quand nous exploitons nous-mêmes, nous allons vendre. Ça va augmenter l'économie de notre pays. Deuxièmement, ça va créer des emplois pour le jeune. Vous savez que dans notre pays, nous avons un taux élevé de chômage. Cette exploitation va évidemment créer des emplois pour nos jeunes. Troisièmement, nous-mêmes, nous allons élaborer des mécanismes de préservation de notre environnement.
L'exploitation du pétrole, là je fais référence par exemple à l'implantation des usines, demande des milliards de dollars. Pensez-vous que la République démocratique du Congo a des moyens suffisants pour se lancer dans l'exploitation du pétrole?
Un gouvernement ne peut jamais manquer de moyens. S'il manque de moyens, nous avons des partenaires. On peut signer des partenariats avec des sociétés qui sont dans le secteur de l'hydrocarbure pour engager cette exploitation. Donc un gouvernement ne peut jamais manquer de moyens. Si nous avons aujourd'hui la capacité de se doter des budgets de milliards de dollars,
Moïse Alieguera Nyakulinda, vous avez cette volonté de voir les choses changer. Quel est le dernier message que vous pouvez envoyer aux autorités de la République démocratique du Congo face à ces retards que nous enregistrons dans l'exploitation du pétrole?
D'abord, je demande au gouvernement de la République de planifier et de commencer l'exploitation des nappes pétrolières du lac Albert, à Nituri, et du lac Kivu au Nord Kivu. Et là, va préserver nos intérêts économiques et sauvegarder notre environnement. Deuxièmement, nous sommes dans le processus d'adhésion à la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. Et donc, je demande à la République d'accélérer ce processus parce que c'est avec cette adhésion que nous pouvons analyser sur quelle base de compétences saisir, par exemple, la Cour internationale de justice ou trancher les litiges qui découlent de cette exploitation parce que déjà nous sommes en retard.
Moïse Alieguera Nyakulinda, Radio Okapi, vous remercie.
Merci, Monsieur Renaud.
Le chargé d'études au pôle juridique du ministère congolais de l'Environnement répondait aux questions de Ronéline Thibonera. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.